Salut et bienvenue dans les podcasts de Wacademy. Alors jusqu'à maintenant, j'ai fait des deux interviews et je pensais rester sur des interviews une fois par mois cette année. Mais je me suis dit, quoi, le format podcast me plaît beaucoup et le format oral me plaît beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire aussi des podcasts où je serai en solo et où je vous partagerai des idées, des pensées, comme je fais sur le blog de Wacademy ou sur les vidéos YouTube, que je vais reprendre un peu plus cette année d'ailleurs, petite parenthèse. Et donc, j'ai décidé de lancer régulièrement des podcasts comme ça pour échanger simplement avec vous. Et les podcasts, c'est pas mal parce que vous pouvez les écouter quand vous êtes en voiture, quand vous promenez votre chien. Quoi, moi, je sais que j'ai un chien, je le promène en écoutant des podcasts. Et je trouve ça assez sympa parce que ça fait un peu comme une émission de radio, sauf qu'on choisit vraiment le sujet qu'on veut écouter. Et donc, si vous êtes passionné de didgeridoo, ou en tout cas, si vous avez un attrait pour le didgeridoo, ça peut être pas mal d'avoir 2-3 trucs à écouter pour vous motiver aussi, puis pour vous faire un peu évoluer dans votre pensée, réfléchir, tout ça. Et puis, je suis aussi très preneur de vos retours et pour me faire moi-même évoluer dans ma vision de l'instrument. Et donc, voilà, je débute cette série de podcasts avec le sujet de la back pressure. Qu'est-ce que la back pressure? Avant toute chose, juste pour ceux qui ne savent pas trop un peu de quoi on parle, en fait, la back pressure, c'est ce qui vous permet, quand vous soufflez dans votre didgeridoo, c'est la résistance de la colonne d'air. Donc, c'est souvent associé au fait qu'un didgeridoo qui aura une haute back pressure, donc un gros retour de pression, donc une grosse résistance de la colonne d'air, sera réputée pour être facile à jouer, tandis qu'un didgeridoo qui aura une back pressure plus basse sera réputée comme difficile à jouer, en tout cas consommant beaucoup d'air. Et donc, généralement, la plupart des joueurs recherchent une back pressure qui est vraiment élevée. Donc, j'ai voulu faire un podcast là-dessus parce que j'en parlais justement tout à l'heure, là, c'est assez spontané comme podcast. J'ai eu le développeur qui s'occupe de la version Android de l'application mobile qui va sortir. Ça sera sur iOS et sur Android. Et donc là, c'était Christophe de la version Android. Et lui, il me disait qu'il jouait que sur des didgeridoo qu'il avait fait lui-même. Et du coup, il a pu tester d'autres instruments que d'autres joueurs ont fait, ou d'autres eucalyptus, tout ça, d'autres fabricants. Et il m'a dit, ouais, c'est fou, la pression n'était vraiment pas la même, c'était bien plus facile à jouer, quoi. J'ai vu qu'il y avait en gros mes instruments et puis des instruments qui étaient meilleurs. Et donc, là, il y a vraiment un point important, je pense, qui est à soulever, c'est que moi, je trouve qu'on s'en fout complètement du retour de pression. La back pressure, on s'en fout, en fait. Sauf que tout le monde, quoi, beaucoup, beaucoup de monde dans le monde du didgeridoo ne parle quasiment que de ça. Pourquoi? Parce que c'est simplement que ça symbolise le fait, effectivement, que ce soit plus facile à jouer. Mais il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs arguments qui montrent que la pression, une haute pression, c'est pas si important que ça. En fait, il y a, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, j'en ai déjà parlé sur le blog de Wacademy, il y a deux types de didgeridoo, en gros, hein, pour schématiser, il y a les didgeridoo coniques et les didgeridoo cylindriques. Un didgeridoo conique, il aura de toute façon par nature une back pressure plus élevée qu'un didgeridoo cylindrique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez souffler dedans, vous allez consommer moins d'air, vous allez avoir un son plus puissant, et donc vous allez avoir une sensation de plus facile à jouer. Mais cette sensation de plus facile à jouer, donc ce son puissant et cette consommation plus basse d'air, vont se payer, quoi, vont contrebalancer de l'autre côté sur la qualité du son. C'est-à-dire que quand vous allez souffler, il va y avoir beaucoup, beaucoup de présence dans les basses et beaucoup moins dans les médiums et dans les aigus. Et ça va donner, si vous amplifiez ce genre de didgeridoo, c'est pas très chouette parce qu'en fait, ça bouffe tout. En fait, ces fréquences, elles viennent manger tout le spectre des basses et ça prend toute la place. Donc, ce genre d'instruments très coniques, ils sont super pour jouer dans la rue. Généralement, quand on veut un son puissant, quoi, buffer si on n'est pas amplifié, jouer dans la rue. Mais c'est des instruments qui vont être très typés. Ça veut dire que votre pression, le fait de jouer, de consommer moins d'air et de jouer en puissance, vous allez le payer très cher par rapport à la qualité de son que vous aurez derrière. Parce que derrière, vous allez avoir de toute façon un instrument qui est très typé et qui est très, très limité dans son jeu. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais instruments, ça veut dire que ce sont des instruments qui sont faits pour juste un type de jeu. Et ça, c'est Ben, c'est très typé, donc se dire qu'il faut vraiment être conscient de ça, quoi, de la limitation qu'il y a. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, beaucoup de joueurs sacrifient le confort de jeu pour avoir par ce genre de didgeridoo, mais vous sacrifiez beaucoup, beaucoup de choses à côté, quoi. Et donc, d'un côté, il y a les coniques comme ça. Ils sont réputés pour avoir une back pressure puissante et tout ça, un son puissant. De l'autre côté, il y a les didgeridoo cylindriques. Les didgeridoo cylindriques, c'est l'opposé. C'est-à-dire que c'est les didgeridoo très passifs. Ils sont réputés pour justement pas avoir du tout de back pressure. Ils sont pas très aimés des joueurs de ditch parce ils sont réputés comme plus difficiles à jouer parce que du coup ils consomment plus d'air, parce que du coup ils sont souvent plus larges. Hein. Un didgeridoo cylindrique, il fera pas 30 mm tout le long. Ou alors ça donne les didgeridoo creusés par la vis qui sont pas top là. Généralement les didgeridoo cylindriques, cylindriques, s'il faut qu'ils sonnent, ils seront un peu plus larges. Et donc du coup ça donne des instruments qui seront plus mélodiques, moins puissants, et donc qui consommeront plus d'air, moins puissants, mais qui seront plus mélodiques. Et en fait, tout le truc, c'est de réussir à marier ces deux formes. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, la back pressure, elle n'est pas primordiale, parce qu'en fait, c'est un critère qui bouffe tellement tous les autres critères que si vous vous axez que là-dessus, vous êtes foutu, quoi. Vous allez le délaisser. 70% de tout le reste du ditch simplement pour avoir un son puissant et un instrument qui consomme peu d'air. Et l'autre biais, moi je trouve, de la back pressure, c'est que ça rend feignant. C'est-à-dire qu'un didgeridoo qui consomme peu d'air, eh ben, vous allez consommer peu d'air. Et donc du coup, vous allez vous habituer à consommer peu d'air. Et quand vous vous habituez à consommer peu d'air, eh ben, vous allez être en mode confort, quoi. Et c'est-à-dire que vous n'allez pas du tout apprendre à tonifier vos muscles, à bien réaliser qu'est-ce qui fait que vous pouvez consommer moins d'air, comment vous pouvez trouver de la puissance en dehors du didgeridoo, c'est-à-dire sans compter sur votre instrument. Et là, vous commencez à déporter le fait de jouer, quoi. En fait, vous vous reposez sur votre instrument et c'est en gros lui qui vous amène la puissance, lui qui vous amène le confort de jeu, alors que c'est oublier justement tout le truc que c'est votre corps l'instrument. Il n'y a que lui en fait sur lequel vous pouvez compter. Le didgeridoo, si vous commencez à compter sur votre instrument, c'est une béquille et donc du coup vous êtes foutu. Tandis que si vous enlevez le didgeridoo, vous pourriez être capable de jouer sans votre didgeridoo, d'avoir les mêmes sons alors qu'ils ne sont pas amplifiés par l'instrument, mais les mêmes sons qui sortent de votre corps parce que c'est votre corps. Tout part de votre corps. Si vous comprenez ça, vous n'avez plus besoin de cette notion de back pressure, parce qu'en fait, la notion de back pressure, elle révèle simplement le fait, est-ce que vous avez compris le pincement de vos lèvres? J'ai fait une vidéo comme ça sur YouTube, si vous mettez pression didgeridoo, vous trouverez cette vidéo sur YouTube, où je parle du pincement de la commissure des lèvres. Vraiment, c'est de là que ça part. Si vous avez un didgeridoo qui a une grosse back pressure, vous n'allez pas trop vous habituer à pincer. Et si vous avez un didgeridoo par contre cylindrique et qui est assez ouvert, là je peux vous dire que vous allez être obligé de pincer, sinon vous êtes foutu. En l'espace de moins de 10 secondes, vous aurez plus d'air et vous serez complètement capoute. Mais ça, c'est le classique en fait. Et donc du coup, pour moi, la back pressure, c'est une illusion parce qu'elle vous encourage simplement à être un peu plus feignant, à manquer de dynamique dans votre corps et à vous reposer sur l'instrument, sur le didgeridoo, tandis que vous pourriez avoir une belle occasion de prendre conscience que l'instrument, c'est votre corps et c'est pas le didgeridoo. Et donc, tout ça pour vous dire que la plupart des fabricants, quand vous allez voir, même sur tous les sites qui vendent des didgeridoo, on vous parle tout le temps de la première survibration, de la deuxième survibration. Il y a toujours un côté accordé comme ça, tout ça, facile à jouer. Généralement, un didgeridoo conique, c'est une trompette, hein, c'est ni plus ni moins qu'une trompette. Ça veut dire que la survibration, elle sera facile à faire sur un didgeridoo conique. Sur un didgeridoo cylindrique, ça sera beaucoup plus dur. Tout ça découle un peu du didgeridoo traditionnel. Donc ce qu'on appelle le yidaki ou le mago, il y a plein de noms, mais en gros c'est les deux grandes familles. Le yidaki, ça va être des didgeridoo coniques, et le mago, ça va être des didgeridoo cylindriques. Et en fait, le yidaki a gagné un peu, en quelque sorte. C'est-à-dire que le yidaki, il s'est répandu un peu partout. Cette forme-là, conique, s'est répandue partout. Parce que plus facile à jouer, parce que justement, eh ben, on a un didgeridoo qui sonne très rapidement en puissance, mais qui perd un peu en finesse de jeu. Je dis pas que le yidaki n'est pas fin à jouer, hein. Attention, hein, le traditionnel, c'est pas ma partie. Je dis juste au niveau de la tessiture sonore, il y a il y a vraiment toute une palette de fréquences. Et donc, le Hidaki, lui, a beaucoup développé les basses et tout ça, tandis que le Mago aura plus développé les harmoniques hautes. En tout cas, on les entend beaucoup plus facilement parce qu'elles se détachent du bourdon, parce qu'on a une absence des fréquences dans les basses, qui est due à la forme de l'instrument. Mais tout ça pour dire que la forme Mago, la forme cylindrique, on la trouve beaucoup moins. Et si vous allez dans la plupart des... Si vous checkez n'importe quelle, quoi, une grosse partie des fabricants de didgeridoo, à part en France où on a commencé à ouvrir enfin les colonnes d'air, mais sinon, tout le monde part de 30 mm et finit avec une cloche qui est minimum 80 ou 90 mm. Et ça donne une forme conique, en tout cas un ratio 30 mm, 80 mm, qui va influencer beaucoup l'instrument. Et donc, tout ça pour dire que quand on parle de survibration, donc la survibration, c'est le son de trompette quand on pince plus les lèvres et que ça fait un peu le paquebot qui rentre au port ou un son d'éléphant, je ne sais pas comment le décrire. Mais en tout cas, ça fait un gros tout. Et ça, c'est quand on pince beaucoup, beaucoup les lèvres. On monte au-dessus d'une fréquence du didgeridoo. Et bien, du coup, moi, je trouve que le fait de préciser sans cesse la survibration, c'est bien hein, de savoir la note... Tout ça, ok, je suis d'accord, ça sert aussi dans l'acoustique du didgeridoo, mais je ne comprends pas trop pourquoi, quoi, pour moi ça va avec la back pressure, pourquoi est-ce qu'en fait on s'acharne à parler sans cesse de la survibration, elle est facile à jouer, gna gna, patati patata. Alors qu'en fait la survibration, si vous écoutez la plupart des joueurs, à part si, si on est dans le mode Pays de l'Est, c'est-à-dire Andrzej Szmekal ou du Brave Kolapin, ou des gens qui jouent dans leur style, à part ce style-là, il y a William Torren aussi qui a développé pas mal les survibrations, mais sinon, oui, on l'utilise, mais en fait, on va utiliser mille fois plus les respirations, on va utiliser mille fois plus les harmoniques ou les attaques langues, ou la sous-vibration, mais beaucoup plus en fait, toutes ces techniques-là, on va beaucoup beaucoup plus les utiliser, et donc du coup, je ne comprends pas pourquoi on s'acharne à parler beaucoup de la survibration, alors qu'en fait, c'est qu'une technique minime et que c'est pas si important. Bien sûr, c'est important, mais c'est pas moins important ou plus important, quoi, c'est pas plus important que des attaques bien équilibrées ou des harmoniques bien délicates qui se détachent bien du bourdon. C'est juste pour vous dire de réfléchir à qu'est-ce qui vous attire dans le didgeridoo. Qu'est-ce que vous aimez en fait ? Au-delà de c'est facile à jouer, c'est puissant. Parce que la facilité de jeu, ça peut aussi se trouver dans d'autres choses. Il y a justement des attaques langues qui peuvent être bien équilibrées, ou il y a justement les harmoniques, ou la voix qui peut bien passer, ou la basse qui peut être bien équilibrée, avec les médiums, ou à la sous-vibration qui est facile à jouer. Il y a plein de choses qui font qu'un instrument sera plus facile à jouer dans tel ou tel domaine. Et souvent, on se repose sur le fait que ce soit facile à jouer parce que ça consomme moins d'air. Je vous encourage vivement à découvrir le pincement dans la commissure de vos lèvres. Qu'est-ce qui vous attire ? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'instrument, tout ça ? Ça, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais instrument en soi. Bien sûr, il y en a qui sont meilleurs que d'autres quand même. Hein. On ne va pas comparer un instrument haut de gamme à un instrument creusé par la vis ou un tube PVC, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la forme, il n'y a pas une forme qui est mieux qu'une autre. Moi, je suis plus inspiré par les didgeridoo cylindriques, les didgeridoo coniques un peu moins, bien que ces dernières années, j'ai mis quand même beaucoup, un peu plus de coniques petit à petit dans mes instruments. Mais voilà, parce que j'ai plus une affinité avec plus la forme cylindrique ouverte. Mais vous, c'est peut-être le conique, et c'est peut-être pour autre chose, simplement, que la back pressure. Mais voilà, c'était juste une idée, en fait, à partager, simplement, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, quel est l'instrument qui vous parle, quoi. Et voilà, quoi. Bon, ben voilà, ce petit podcast est terminé, c'était juste pour partager une pensée comme ça là-dessus. Je vais faire régulièrement des podcasts comme ça, sur différentes thématiques. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message via Wacademy, ou alors un mail aussi sur Wacademy ou sur Facebook. Je suis un peu moins sur Facebook, mais vous pouvez me laisser des commentaires ou des messages pour savoir un peu ce sur quoi vous voudriez que je parle, et pour me donner un peu 2-3 idées. J'ai des idées pour plusieurs podcasts, mais n'hésitez pas, quoi. Voilà, et ben on se retrouve sur Wacademy. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Wacademy, c'est une école de didgeridoo en ligne que j'ai créée. Si vous tapez Wacademy, vous trouverez facilement l'école. Et puis je vous dis à bientôt via l'application de Wacademy qui va bientôt sortir. À plus !